VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 15h à Tananarive, bienvenue à notre journal. On commence par les élections à Madagascar. L'ancien chef de l'État malgache André Rajoel, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre, dénonce ce qu'il appelle des manipulations des résultats officiels. L'ex-président a exhorté la justice malgache lundi à trancher dans ce domaine. Le point avec Morgan Guiriec.
On a gonflé le nombre des inscrits et distribué aux autres candidats les voix obtenues par André Rajoel, a-t-il déclaré hier dans la capitale malgache. Il a annoncé sa décision de saisir la Haute Cour constitutionnelle afin qu'elle tranche sur ses problèmes, promettant une victoire à ses partisans rassemblés devant son quartier général. Son rival, Marc Ravalomanan, n'a pas encore annoncé s'il allait saisir la plus haute juridiction du pays. Il avait lui aussi dénoncé des défaillances lors du premier tour. André Rajoel a décroché 39,19% des suffrages devant l'ancien président Marc Ravalomanan, 35,29%, selon les résultats publiés samedi par la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats ont jusqu'à mardi pour déposer leur recours. La HCC doit proclamer d'ici fin novembre les résultats définitifs après examen des requêtes des candidats. Un second tour devra donc départager les deux frères ennemis le 19 décembre.
Élection RDC maintenant, Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du FCC, le Front commun pour le Congo, qui est la famille politique du président sortant Joseph Kabila, a présenté le plan de gouvernance qu'il compte mettre en œuvre s'il est élu le 23 décembre à la tête du pays. Les points saillants de ce programme, doter la RDC d'un budget d'au moins 86 milliards de dollars, valoriser l'homme congolais, lutter contre la corruption, renforcer l'autorité de l'État, donner aux Congolais l'accès aux services sociaux de base et aussi renforcer le rôle géostratégique de la République démocratique du Congo. Eddie Isango a recueilli la réaction du président de la LICOCO, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Ernest Mpararo.
Nous avons déjà entendu ce genre de discours parce que le chef d'État actuel l'a toujours dit, l'a toujours prononcé publiquement lors des discours à la nation. Il a toujours dit effectivement qu'il va lutter contre la corruption, mais en pratique, nous ne voyons pas ces actes de lutte contre la corruption. Et ces actes devraient déjà impacter les conditions de vie des citoyens.
Le budget de la RDC est aujourd'hui d'au moins tout autour de 5 milliards de dollars. Par quelle magie, lui comme tous les autres, atteindront du jour au lendemain des sommes aussi faramineuse que 86 milliards.
Nous pensons que si vraiment il lutte réellement contre le détournement des données publiques, contre la fraude, contre la vente des actifs miniers, contre la mauvaise gouvernance en général, je suis sûr et certain qu'annuellement, effectivement, il peut avoisiner 20 milliards de dollars. Donc, ce qui fait que sur les 5 prochaines années, il peut arriver à ce montant-là.
Est-ce que ce n'est pas juste un discours propagandiste ou démagogique à quelques deux jours du début de la campagne électorale?
Suite à l'expérience que nous avons avec le régime actuel, nous pouvons dire effectivement que c'est de la démagogie, étant donné que le chef de l'État lui-même actuel, il était au pouvoir depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, et à preuve du contraire, en matière de gouvernance, en tout cas, il n'a que 1%.
Si en 17 ans, ce régime n'a pas pu valoriser l'homme, ils pourront le faire sur l'Élysée, comme ils le disent.
En Angola, ils avaient les mêmes problèmes comme nous, mais lorsqu'il y a eu le nouveau président, il a commencé à réformer l'État. Nous pensons aussi que si Shadari a cette volonté, il peut le faire. Mais s'il n'a pas, il veut la continuité en mettant en place des politiques qui ne tiennent pas compte effectivement de l'homme, ça sera seulement un discours démagogique et il n'y aura pas changement comme les Congolais le veulent.
Tous les autres candidats disent la même chose. Ils vont placer l'homme congolais à l'avant et ils vont améliorer la sécurité, combattre la corruption. Est-ce que ce ne sont pas des vœux pieux? Tous les discours sont quasiment le même aujourd'hui.
Nous leur donnons les doutes et c'est comme ça que nous disons tous ces candidats, s'ils ne luttent pas contre la corruption, tous ceux qu'ils disent, c'est de la démagogie. Mais s'ils commencent à lutter contre la corruption, s'il y a un président qui est élu et qui commence à lutter contre la corruption, nous pensons qu'il peut réaliser tout ce qu'il a promis aux électeurs.
Est-ce que ce discours est en adéquation avec ce qui se passe déjà maintenant? Les autres candidats, par exemple, demandent à la CENI de disqualifier Shadari parce qu'il utilise les biens et les personnels de l'État pour sa campagne maintenant.
Si ces discours sont en contradiction avec tout ce qu'il pose comme acte, à ce moment-là, on peut dire que non, c'est un démagogue, c'est un monsieur qui est venu seulement pour chercher des voix, mais à la fin, il ne fait absolument rien.
Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, la LICOCO. Et toujours concernant les élections RDC, l'Église catholique congolaise, très influente dans le pays, exhorte les autorités à garantir et faire valoir la liberté de manifester à tous les candidats. Et ce, à 3 jours du lancement de la campagne électorale dans le pays. Une campagne pour des élections présidentielles, législatives nationales et aussi provinciales qui commence jeudi, selon le calendrier officiel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection au Nigeria, le président Muhammadu Buhari et son principal rival Atiku Abubakar ont donné lundi le coup d'envoi de la campagne présidentielle à 3 mois du scrutin, prévu le 16 février 2019. Nani Talani fait le point.
Les électeurs nigérians devront choisir leur président parmi 78 candidats, mais le véritable duel va opposer le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de file de l'opposition Atiku Abubakar. Il y a quelques mois, M. Buhari, 75 ans, était quasiment assuré d'une victoire face à une opposition divisée, mais son parti a subi des revers et des défections en série. Atiku Abubakar, ancien vice-président âgé de 75 ans, est un homme politique bien connu. Sa réputation d'homme très riche a été ternie par des accusations de corruption ou des scandales liés à des conflits d'intérêts, mais ses détracteurs n'ont jamais réussi à le faire comparaître en justice. Il a toutefois réussi à rassembler des déçus de la présidence de M. Buhari, dont l'image a souffert du ralentissement de l'économie, tout comme de graves problèmes sécuritaires. M. Abubakar entend miser sur son succès en tant qu'homme d'affaires pour remettre le Nigeria au travail, alors que M. Buhari a placé la lutte contre la corruption au cœur de son discours électoral.
Nigeria toujours, des djihadistes de Boko Haram ont tué 9 agriculteurs et en ont enlevé 12 dans un village du nord-est du pays. Cela s'est passé lundi dans le village de Mamanti, à 5 km de Maïdougouri, le chef-lieu d'État de Borno. Le 14 novembre, des militants de Boko Haram avaient déjà attaqué Mamanti, tuant une personne et incendiant le village, avant d'emporter des centaines de têtes de bétail avec eux. Confiés au Yémen, les rebelles houthis et le pouvoir se sont dit favorables aux efforts de paix de l'ONU, ouvrant la voie à de nouvelles négociations pour un règlement politique de ce conflit qui ravage le pays depuis plus de 3 ans. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Oui, la diplomatie ne ménage aucun effort alors que sur le terrain ont lieu les combats les plus violents dans la ville de Hodeida. L'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a proposé la tenue de pourparlers à Stockholm devant le Conseil de sécurité de l'ONU avec la clé un projet de résolution porté par la Grande-Bretagne demandant une trêve dans la ville et le passage sans obstacle de l'aide humanitaire. M. Griffiths a dit qu'il tablait sur un démarrage des négociations dans quelques semaines et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a indiqué qu'elle pourrait avoir lieu début décembre. Le gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a déclaré qu'il enverrait une délégation à Stockholm. Avant lui, le chef rebelle Mohamed Ali Al-Houthi avait exhorté ses partisans à mettre fin aux tirs de missiles et drones et proposé de cesser toutes les opérations militaires sur tous les fronts pour montrer les bonnes intentions des rebelles. M. Griffiths a salué l'annonce rebelle et souhaité que toutes les parties poursuivent leurs efforts de retenue pour créer un environnement propice à la tenue de consultations.
Actualité aux États-Unis. Pour terminer, le Congrès américain devra changer son règlement intérieur et ce à l'initiative d'une parlementaire musulmane qui réclame la possibilité de porter le voile dans l'hémicycle. Une modification soutenue lundi par le principal groupe de défense des droits des musulmans dans le pays. Il en a marre, une réfugiée somalienne élue sous l'étiquette démocrate au début du mois a participé à la réécriture du règlement intérieur qui interdit depuis 181 ans d'avoir la tête couverte. La nouvelle version autorisera des exceptions pour raisons religieuses. Celle-ci s'appliquerait au foulard islamique, à la kippa juive ou au turban sikh. Ce changement devrait être approuvé en janvier par la Chambre des représentants, qui est désormais à majorité démocrate. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.